Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Revière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 14 juillet, l'étape la plus physique des Pyrénées dans le Tour de France. 178 km de montagne entre Muret et le col du Portet, hors catégorie. Une arrivée au sommet. Nicolas Georgerot, bonjour.
Bonjour.
Le peloton s'était lancé il y a 20 minutes.
Oui, quasiment 10 km parcourus. Le peloton vient de passer la localité de Bérat et va bientôt arriver à Puy-de-Touge. Scénario similaire à ces derniers jours. Bataille très vive pour former l'échappée du jour pour l'instant ce 14 juillet. C'est un Français qui est devant Pierre Roland mais qui ne compte que 25-30 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Un temps couvert, des averses sans doute au fil des étapes et beaucoup de vent avec de bonnes rafales par moment. 110 km de plaine et ensuite les difficultés dans les 60 derniers kilomètres. Pays ressourde, Valouron Azette et le col du Portet où les leaders vont s'expliquer.
Retour à la tradition des défilés du 14 juillet sur les Champs-Élysées avec troupe à cheval, défilé aérien. Nous rejoindrons notre reporter Julien Fautra à bord d'un blindé et nous irons dans la foule en mode passe sanitaire. Dans RTL Midi aussi, le Big Bang climatique européen. La Commission prévoit de taxer le kérosène, de revoir le marché du carbone, mais aussi et surtout d'interdire la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035. Elle veut passer au tout électrique. Le passe sanitaire entre assouplissement et nouvelles restrictions, tolérance pour les adolescents, tolérance dans les trains sur le week-end du 1er août, à l'inverse des amendes de 45 000 euros pour les lieux publics qui ne respecteraient pas les contrôles sanitaires et isolement obligatoire des personnes testées positives. La météo, bonjour Peggy Broche. Encore des trombes d'eau avec même une vigilance dans 5 départements de l'Est.
Bonjour Christelle, 5 départements en effet du Nord-Est sont en vigilance orange, pluie, inondation. Il y en a 3 également pour crue. Des pluies soutenues encore cet après-midi, donc soyez extrêmement vigilants. Le temps est aussi maussade entre le Nord-Pas-de-Calais, la Bourgogne, le Nord des Alpes avec des averses. Et puis ailleurs, entre la Haute-Normandie et le Sud-Ouest, c'est souvent gris. Quelques trouées possibles et quelques gouttes. Pour un temps sec, direction la Bretagne, la Basse-Normandie et la façade Aquitaine. Et puis le vrai beau soleil, parce qu'il y en a quand même, c'est près de la Méditerranée. Les températures, elles sont fraîches, hein, 17 degrés à Metz, 20 à Brest, 22 à Paris, Limoges et Toulouse et 27 à Montpellier.
La question du jour sur RTL.fr, êtes-vous prêt à passer au tout électrique? Eh bien, vous dites non à 92%, il y a 6% de oui. On sent bien que vous n'êtes pas prêt du tout. J'attends vos appels au 3210, nous dialoguerons ensemble à partir de 13h.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
La DER des DER, dernier défilé du 14 juillet du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le dernier aussi pour le chef d'état-major des armées, le général Lecointre. Il a ouvert la voie sur les Champs-Élysées ce matin aux côtés du président en commande-car. Il cédera sa place dans quelques jours à Thierry Burcard. Et c'est sous un ciel bas que la patrouille de France a donné le coup d'envoi d'un défilé redevenu classique cette année. 4300 militaires à pied, 73 avions, 24 hélicoptères, 200 chevaux de la garde républicaine et 21 véhicules. Depuis ce matin, sur RTL, nous vous faisons vivre cette journée avec Julien Fautra à bord d'un véhicule blindé Griffon. Racontez-nous votre défilé, Julien.
Ah, c'était un moment extraordinaire, Christelle. Il y a une sorte de concentration absolue tout d'un coup dans le véhicule. Le silence est total. On le sait, hein, le pilote répète depuis des jours, il faut qu'il soit à telle distance, devant, à côté. Et puis ce moment où les Champs-Élysées s'ouvrent comme ça avec le public qui applaudit, c'est fabuleux. Je vous laisse écouter l'émotion du chef Anthony. C'est lui que j'ai accompagné toute la matinée. Lui aussi, c'était son premier défilé.
Ah, c'était glorieux. Là, la pression, elle redescend. Mais c'est ouais, la fierté et l'honneur qu'on avait avant de partir, et ben on l'a eu pendant tout le long. Petit coup d'adrénaline au début, et une fois qu'on est passé, on peut enfin souffler. Ça fait du bien. Et là, ça y est, le téléphone y vibre, il y a les messages de papa et maman dans tous les sens, et c'est cool, donc ça fait plaisir.
Il y a une forme de fierté, vous la ressentez toujours, cette fierté?
Ah oui, toujours. Puis on passe devant le président de la République, donc ça a une certaine importance. C'est comme l'OPEX pour le militaire, c'est la même chose, c'est l'apogée de la carrière, c'est de faire le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.
La fierté, moment où on a le souffle coupé tant on connaît le travail, tant on connaît l'investissement, les sacrifices qu'il y a derrière. C'est ça qu'exprime le chef Anthony et les 3 autres militaires de notre équipage. Ils ne le revivront peut-être jamais. C'était leur jour et ils ont accompli cette mission sans fausse note.
C'était leur jour et c'était aussi le vôtre. Merci Julien. Les spectateurs munis d'un pass sanitaire ont pu assister au défilé sur les Champs-Élysées. Heureux de renouer avec la tradition, Vincent Serrano.
Oui, des spectateurs qui ne sont pas restés assis très longtemps sur leur chaise pliable pour les plus prévoyants, Céline s'est carrément mise debout sur un banc pour ne rien rater du défilé, notamment celui de David, son fils qui est à l'école Saint-Cyr.
Et c'est un grand privilège pour moi de le voir défiler sur les Champs-Élysées. Ça me rappelle 11 années plus tôt le défilé de mon conjoint qui était à l'école des officiers de la gendarmerie. Donc voilà, beaucoup d'émotions en cette journée particulière pour notre famille. Et voilà, le contexte est particulier. C'est vrai que ça a été très difficile pour accéder jusqu'aux Champs-Élysées aujourd'hui. Il fallait montrer patte blanche, donc c'est une grande joie pour nous.
Et du coup, vous avez traîné votre fille ici?
Ma fille espère pouvoir embrasser une carrière militaire également.
J'admire tout ce qui touche au militaire, même le 14 juillet, je me levais tout le temps pour regarder.
Vous avez déjà commencé à vous entraîner là sur la musique?
Toujours.
Votre prénom, monsieur?
David.
C'est vous qui avez entraîné toute la famille dans tout ce qui est militaire, quoi.
Et ça va au-delà de ça, c'est pas forcément le défilé, c'est aussi la nation reprendre après des mois et des mois de confinement et de restrictions. Ça fait du bien aussi de revivre un petit peu les moments traditionnels, les cérémonies françaises, quoi.
Voilà, David, Angèle et Céline qui s'apprêtent maintenant à retrouver David un peu plus loin pour recueillir ses impressions après son premier défilé. Il y a fort à parier que ce ne sera pas le dernier.
Merci Vincent. Et à la fin du défilé, des jeunes du service civique, du service national universel sont venus danser au son de la fanfare de la garde républicaine devant la tribune présidentielle, comme un air de liberté retrouvé. Autre tradition du 14 juillet, la promotion de la Légion d'honneur. 467 personnes sont distinguées, en particulier le philosophe Edgar Morin, qui à 100 ans devient grand croix, comme Alain Mérieux, le fondateur de l'institut du même nom. Sont distingués aussi le navigateur Jean Le Cam, le préfet de police de Paris Didier Lallemand, la chorégraphe Caroline Carlson, l'actrice Laetitia Casta ou encore Jean-Pierre Pernaut. L'Europe et le climat. La Commission européenne doit dévoiler aujourd'hui son plan d'action pour les 27, 12 directives afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et une mesure très concernante, Bénédicte Tassard, la fin de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035.
Et les voitures électriques avec batterie seraient donc les seules habilitées à rouler. Cette date de 2035 n'est pas encore totalement inscrite dans le marbre, ça sera peut-être 2040, mais l'objectif, c'est bien qu'on obtienne un transport totalement décarboné en 2050. Comptez qu'une voiture dure une quinzaine d'années, on peut donc y arriver.
Et quelles sont les autres mesures?
Alors, une taxe kérosène pour les avions volant au-dessus du territoire européen, la plantation de ce qu'on appelle des puits de carbone, des forêts, des prairies, relever aussi la part des énergies renouvelables, davantage d'éolien, de solaire, et puis une taxe carbone aux frontières sur toute importation d'acier, de ciment ou d'électricité produit hors de l'Union européenne.
Et puis, il y a une mesure qui s'annonce très polémique.
Ah oui, c'est la taxe carbone pour le bâtiment et le transport routier. Autrement dit, les raffineurs vont payer pour pouvoir produire du carburant, du fioul domestique. Mais en bout de chaîne, le particulier va être touché. 400 euros de plus par an pour la facture chauffage et carburant des ménages. Vous voyez bien, ça va poser un problème. La Commission européenne propose des chèques énergie pour les plus démunis, mais cette taxe a déjà pas mal de plans dans l'aile.
Arrêtons-nous un instant sur les voitures propres. Ça veut dire qu'à partir de 2035, il n'y aurait plus de voitures hybrides. Et pour les constructeurs, Christophe Bourreau, évidemment, ça change tout.
Ah oui, car ils n'auront plus le choix. D'ici à 15 ans, vous ne verrez plus aucune voiture diesel ou essence en concession, ni même un hybride rechargeable. C'est un point de crispation car certains pays, comme la France, poussent pour que l'hybride puisse continuer afin d'assumer une transition en douceur. Mais du point de vue de beaucoup d'ONG et des Verts, ces véhicules sont trop polluants car majoritairement des SUV, plus lourds à cause des batteries. Les constructeurs sont donc sous pression et doivent rapidement prendre le virage. Côté français, Renault, par exemple, promet 90% de modèles électrifiés en 2030. D'autres vont encore plus loin puisque Volvo prévoit de retirer de son catalogue d'ici 2030 tous ses modèles à combustion, y compris les hybrides. Audi a également annoncé un basculement au tout électrique en 2025. Reste maintenant à convaincre les utilisateurs car entre les prix, l'autonomie et surtout les bornes de recharge, il y a encore de nombreux freins à l'électrique.
Et justement, êtes-vous prêt à passer au 100% électrique qui ne représente pour l'instant que 7% des ventes? Appelez-nous au 3210 et puis vous, Christophe, vous reviendrez dialoguer avec les auditeurs tout à l'heure. Merci.
À tout à l'heure.
En Afghanistan, les talibans qui mènent depuis 2 mois une offensive contre les forces afghanes affirment contrôler désormais un poste frontière avec le Pakistan. Les autorités démentent. L'ancien président américain George W. Bush critique le retrait des troupes de l'OTAN. Une erreur, dit-il, ajoutant les femmes et les filles afghanes vont subir un préjudice indescriptible. Dans un instant, on revient sur les modalités du nouveau pass sanitaire, les aménagements et toujours la ruée sur les vaccinations. RTL.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Les Français profitent de ce jour férié pour se faire vacciner. On a battu hier un record, 900 000 injections. Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, plus de 2 millions de Français ont déjà pris rendez-vous. À Strasbourg, on vaccine sans rendez-vous dans le centre de la Bourse et c'est la foule des grands jours, Yannick Collin.
Oui, et dans cette immense file d'attente, Vanessa a carrément ramené son petit déjeuner en attendant son tour.
Là, on attendait, donc on s'est dit, on va chercher le petit pain, le petit jus d'orange. On sait jamais les effets secondaires.
Léo était là avant l'ouverture pour être sûr d'avoir un vaccin, lui qui était plutôt hésitant jusque-là.
J'étais pas contre, mais j'étais pas forcément pour non plus. Je me sentais pas forcément à risque. Maintenant, je le fais parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et du coup, c'est pour ça que je suis venu, parce que j'aimerais bien profiter un peu de mes vacances.
Partir en vacances, c'est aussi ce qui a poussé Johan, venu avec son fils Noé, 13 ans, qui n'avait pas pris de rendez-vous jusque-là.
C'est pas pressant, on va dire. Après, elle m'a dit qu'on devait se faire vacciner sans rendez-vous, du coup, j'ai dit oui.
Fini les tests PCR pendant les vaccances. À choisir entre le vaccin et les tests PCR, il a fait son choix.
Anne-Claire Hamann est infirmière coordinatrice. Depuis lundi, c'est un public plus inquiet qui vient se faire vacciner.
Oui, on rassure énormément les gens qui sont très stressés. C'est surtout par rapport aux effets secondaires qu'ils ont très peur de ça. Donc voilà. Ils se sentent obligés de le faire de toute façon, clairement. Mais ils ne voient pas l'intérêt collectif, en fait. Ils voient l'intérêt perso.
Mais quelle que soit leur motivation profonde, il y aura en tout cas 700 nouveaux vaccinés dans ce centre strasbourgeois pour ce 14 juillet.
Reportage Yannick Collin. Après le tour de vis, des assouplissements. Les 12-17 ans dont la vaccination a été ouverte tardivement seront exemptés de passe sanitaire jusqu'au 30 août, dans les cinémas, les parcs d'attractions, les restaurants, les transports. Olivier Véran, le ministre de la Santé, ne veut pas gâcher les vacances des familles. Pour tout le monde, la vaccination sera reconnue comme complète une semaine après la deuxième dose et non plus deux. Et ce matin, sur RTL, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé que les nouvelles restrictions du pass sanitaire n'entreront pas tout à fait en vigueur au 1er août.
Ce sera certainement après le week-end du 1er août, qui, comme vous le savez, est un grand chassé-croisé. Et ce sera donc certainement dans la semaine du 2 août, plutôt.
Ah, donc on aura quelques jours de tolérance, c'est ce que vous nous dites ce matin.
L'idée qui est poursuivie, elle est simple. C'est à la fois concilier la liberté de déplacement et inciter à la vaccination. On voit que sur incitation à la vaccination, les choses vont bon train. Et sur la liberté de déplacement, peut-être simplement dire qu'il y a des choses qui ne changent pas. Nous préserverons le même nombre de trains pour tous l'été, notamment à la SNCF. Les conditions d'achat, de remboursement, d'annulation ne changent pas non plus. Ce qui change, c'est effectivement l'exigence de présenter un test ou un vaccin, et donc de ce pass à compter de début août, pour les trains longue distance, c'est-à-dire les TGV, les intercités et les trains de nuit.
Jean-Baptiste Djebbari avec Benjamin Sportouche, et on devra porter le masque au moins jusqu'au 30 août dans les trains. On commence aussi à y voir plus clair sur les restrictions cette fois. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres lundi prochain sur le pass sanitaire et l'obligation de vaccination des soignants. Il prévoit aussi d'obliger les personnes testées positives à s'isoler. Pour l'instant, Jacques Serret, c'était juste vivement conseillé.
Oui, aujourd'hui, si vous êtes positif, vous n'avez aucun risque de voir débarquer un policier vérifier votre isolement. Mais oui, ça pourrait changer car le gouvernement veut faire appliquer la même règle que pour les voyageurs en provenance de pays classés sur liste rouge, une quarantaine de 10 jours obligatoire. Alors pour faire appliquer et pouvoir contrôler cet isolement, le projet de loi prévoit qu'à la réception du résultat du test PCR, toute personne positive reçoive automatiquement un arrêté préfectoral individuel. C'est ce que nous indique Matignon ce midi. Ainsi, avec une telle mesure, les positifs au Covid-19 pourraient être soumis à des contrôles aléatoires à leur domicile par la police ou la gendarmerie. Pour le moment, le gouvernement ne donne aucune indication sur la potentielle sanction en cas de non-respect de cet isolement, mais elle pourrait être la même que pour les voyageurs arrivant de pays à risque, une amende de 1 000 euros et 1 500 en cas de récidive, un durcissement qui pourrait cependant se prendre un mur d'ici lundi, celui du Conseil d'État.
Jacques Serret, à partir du 21 juillet, il faudra un pass sanitaire pour se rendre au cinéma ou dans un parc d'attractions. Il sera étendu à partir du 1er août aux bars, restaurants, aux transports. Il faudra donc présenter soit la preuve d'une vaccination complète, soit celle d'une infection par le Covid, soit celle d'un test PCR négatif. Et c'est lieux recevant du public risquent 45 000 euros d'amende en cas de non-contrôle du pass sanitaire, Nerissa Imani.
Exactement. En tant que gérant d'établissement, vous devez contrôler les passes sanitaires de chacun de vos clients. Pour ça, il faut télécharger une application Tous Anti-Covid Vérif. Vous scannez le QR code des clients et cela permet de voir si le pass sanitaire est valide ou non. Mais cela signifie aussi qu'il faut fournir au personnel un téléphone pour les contrôles. Le risque, vous l'avez dit, c'est une amende de 45 000 euros et un an d'emprisonnement. Les préfets peuvent ensuite décider de la fermeture des établissements et il y aura des contrôles de police réguliers. Autre responsabilité, en tant que gérant, vous devez vérifier que tous vos salariés soient vaccinés. Ils ont jusqu'au 1er août pour avoir reçu au moins une dose, ce qui laisse jusqu'à la fin du mois pour être totalement vacciné. S'il refuse, l'employé risque la suspension de son contrat de travail, de sa rémunération, et cela peut aller jusqu'à la mise à pied et le licenciement.
Nerissa et Mani, bien sûr, on peut reparler tous ensemble des nouvelles restrictions du pass sanitaire et de ses aménagements au 3210. Appelez-nous maintenant, vous aurez la parole à 13h. Notre été prend l'eau, vous l'avez sans doute remarqué, des trombes d'eau dans l'est du pays, une bonne pluie partout ailleurs, comme un parfum d'automne. Direction Lacanau, en Gironde, grisaille et fraîcheur, 21 degrés maximum prévu aujourd'hui. Et on retrouve sur la plage abandonnée Juliette Chénion.
Oui, et comme la plupart des vacanciers ce matin, Stéphane est au marché plutôt qu'à la plage. Il n'avait pas du tout anticipé cette météo. Il est en short et en t-shirt.
C'est vrai qu'on n'avait pas pris grand-chose, on n'avait pas pris de blouson. Un pull, on avait pris. Donc voilà, bon, mais ça va quand même. On essaye de faire des activités entre deux averses.
Dominique vient de région parisienne, elle confirme, c'est vraiment pas la meilleure semaine.
Il fait très moche, en plus on a un petit d'un an, on s'est baigné une seule fois en 15 jours, vraiment c'est l'horreur. C'est la première fois, eh ben, on essaie de faire un petit peu de vélo, on se repose, on lit, et puis on fait des balades et on mange des glaces.
Même avec ce temps ?
Même avec ce temps. Aujourd'hui j'y crois quand même, alors j'ai mis mon short, mais hier c'est vrai que j'avais l'impair, j'avais le jean et le pull. Mais bon voilà, c'est comme ça nous empêchera pas de revenir.
Elle a raison d'espérer, Dominique. On aperçoit quelques morceaux de ciel bleu et le soleil doit revenir à partir de vendredi.
À partir de vendredi, il va falloir encore patienter deux jours. Les températures pourraient descendre jusqu'à 5 degrés en altitude. Le peloton du Tour de France va souffrir pour la troisième étape dans les Pyrénées. On retrouve Christophe Paco au Muret où il fait frisquet dans un instant.
RTL Mire. Tour de France 2021. RTL chez vous. Christophe Paco.
Et on vous retrouve, Christophe, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Christelle. RTL chez vous, sur la route ce midi de Saint-Lary-Soulan et du col du Portet. Rencontre du jour, histoire de la grande boucle, question du jour, l'œil du Parisien et le coup de cœur de Laurent Jalabert. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2021. RTL chez vous. Christophe Paco.
En ce mercredi 14 juillet, RTL chez vous, le coup de cœur de Laurent Jalabert. Bonjour Laurent.
Cocorico.
Bah oui, vous avez raison, mais depuis Anctil, on a gagné des étapes, les Brochards, les Virenques, les Montcoutier. Barguil, c'est le dernier en 2017. Et je crois qu'il y a un certain Laurent Jalabert qui a fait un beau petit doublé aussi. Hein.
Et oui, gagner une fois, c'est magnifique, c'est formidable, ça marque une carrière. Mais gagner deux fois, c'est deux fois mieux, évidemment. C'est double dose. Quand on aime ça, ben on se retient pas. J'ai eu cette chance, c'est vrai, de gagner deux fois le 14 juillet. Alors, gagner le 13, le 15, c'est bien aussi. Oui. Mais gagner le 14, c'est un coup de boost supplémentaire sur une victoire sur le Tour.
Et là, on se dit... Aujourd'hui, on y croit. Un petit Godu, un petit Martin, qui paraît peintre, je sais pas moi, on tente quelque chose.
On y croit et on est à fond derrière les Français. J'espère qu'une échappée partira de loin, qu'ils prendront beaucoup d'avance et qu'on retrouvera bien sûr des coureurs capables d'aller hisser leur carcasse au sommet du col du Portet, 2215 mètres d'altitude. Ce sera pas facile hein, pour un Français d'aller gagner là-haut, mais ça se fera au prix d'un gros effort et surtout d'un gros mental.
Et ce soir, on se retrouve, Laurent Jalabert, à quelle heure déjà ?
18h30, Christophe.
Jusqu'à 19h pour refaire l'étape avec vous sur le 3210. Bonne journée, belle Pyrénées, Laurent Jalabert.
Merci.
Christophe Paco. RTL, chez vous.
Ça y est, il vient de chanter l'hymne national. C'est Christophe Bérard, spécialiste cyclisme, évidemment, aux Parisiens aujourd'hui en France. Bonjour.
Salut Christophe, j'ai la voix cassée, j'ai chanté l'hymne, effectivement.
Normalement, avant le feu d'artifice du jour... Ah tiens, feu d'artifice, on vient d'en parler avec Laurent Jalabert. Allez, 14 juillet, un petit Français. Focus ce matin avec vous. Sur David Godu.
Allez, c'est peut-être la dernière chance, soyons lucides, la dernière chance de voir un Français lever les bras depuis la victoire d'Alaphilippe en début de tour. Oui, petit coup de cœur sur David Godu qui a vécu un début de tour assez compliqué, qui est toujours meilleur en troisième semaine. Hier, il était intéressant, il a tenté, il a osé. D'ailleurs, il était un peu déçu à l'arrivée. Et j'ai envie, je pense que c'est peut-être le Français qui a les jambes les plus résistantes pour tenter quelque chose, peut-être aujourd'hui ou peut-être même dans l'étape de demain, qui va passer dans le Tourmalet. Et le Tourmalet, pour David Godu, ça dit quelque chose d'important, vous savez pourquoi ? Parce qu'en 2019, il a fait un travail énorme pour Thibaut Pinot, la belle victoire, la victoire emblématique. Et sincèrement, je sais que s'il a coché une étape dans sa tête sur toute la montagne sur le Tour, c'est celle qui passe par le Tourmalet.
Vive le 14 juillet ! Christophe Bérard, à demain !
À demain !
Tour de France 2021, RTL chez vous. Christophe Paco.
Question du jour, qui va oser attaquer le maillot jaune aujourd'hui dans les Pyrénées ? Mourad Djabari est allé à votre rencontre ce midi à Muret.
Je
pense que la bataille aura plutôt lieu pour les places, les autres places du podium. Je vois bien Vingegaard essayer d'aller chercher la deuxième place d'Ouran, mais je crois que pour la victoire finale, c'est déjà fait.
Je pense Julien Alaphilippe. Ouais, c'est son étape. Il faut qu'un Français gagne, 14 juillet. On peut pas faire autrement.
Eh bien, écoutez, ça serait très bien hein, pour le spectacle. On pense qu'il est inattaquable et ça serait intéressant que les coureurs l'attaquent. Voilà.
Qu'on ose enfin.
Et ouais, c'est ça. Ça donnerait beaucoup de spectacles. Hein. Voilà.
Vous, qu'est-ce que vous pensez que c'est un peu trop verrouillé pour l'instant?
Non, il y en a quand même qui ont essayé, mais il faut oser encore, il faut persister.
Christophe Paco,
RTL chez vous.
RTL chez vous, avec notre champion préféré. Oui, Philippe Croizon. Salut Philippe.
Salut, salut à tous.
Retour sur le tour avec la caravane au magnifique Bob Vichy.
Ah, exactement. L'ambiance. Tu sais, on a l'habitude de dire que c'est noir de monde. Une ambiance de dingue, quoi. Il y a un accueil du public qui est vraiment très très fort. Nous, on lance pas un saucisson à la fois, on balance des poignées de saucissons.
Mais non.
Et ce qui est assez marrant, c'est quand on passe, on lance une poignée, on entend « aïe !» Mais après, je rigole, parce que c'est les petits paquets, c'est pas les gros impacts.
Et quand les gens te reconnaissent, ils doivent halluciner de te voir dans une voiture comme ça.
Ils sont hallucinés. Alors, tant que j'ai les bras en l'air, en bas, ça va. Mais dès que je lève les bras, je fais « ouais, ouais !» Alors, t'as les gens qui disent « ah, c'est Philippe Croizon !» Alors, il y a les gens qui disent « ah, c'est... » Ah, mais voilà. C'est le gars qui a traversé la Manche.
Qui a traversé la Manche et qui va partir dans l'espace?
Bah, au mois de septembre. Au mois de septembre, 15 septembre, je suis à Cap Canaveral et on voit comment c'est possible d'envoyer un petit gars comme moi, qui n'a pas de bras et pas de jambes, dans l'espace. Encore une fois, c'est moi leitmotiv, tu me connais, tout est possible. Tout est possible à celui qui ose.
Tu sais que je vais t'accompagner. Je te laisse pas tomber. Les saucissons, je te laisse faire. Oui. Mais l'espace.
L'espace, il faut un pro, quoi.
Ouais.
D'accord. Mais ce que j'ai adoré, c'est quand tu donnes un bob à quelqu'un, c'est incroyable son visage, comment il change. Il s'illumine, il a le truc collector.
En plus, tu peux les garder, tu peux les mettre sur eBay, ou ça se vend bien.
Oui, on l'a vu, ouais. Alors, un bob que chez nous sur eBay, c'est en moyenne 15-20 euros. Hein.
Donc, avec tout ce que t'as piqué aujourd'hui.
Bah, j'ai de quoi aller dans l'espace.
Ouais. Bonne route, mon Philippe.
Merci, et merci à tous les auditeurs. À bientôt, l'affaire continue.
RTL.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voie va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
L'histoire de la Grande Boucle, en ce grand jour, signé Christian Laborde.
Aujourd'hui, les Pyrénées, le mythique plat d'Adé, et ce col sévère que l'on vient de rajouter, le col du Porté. Pour entrer dans la légende, le col du Porté aurait besoin d'un Poulidor. Ce Poulidor auquel le plat d'Adé doit tout. Le 15 juillet 1974, Poulidor, âgé de 38 balais, attaque à la corde dans le premier virage ultra cambré du plat d'Adé, virage qui aujourd'hui porte son nom. Ni Eddy Merckx, ni les Espagnols, qui sont pourtant ici sur leur terrain, ne parviennent à prendre la roue violette du vélo violet de Marc Mercier de Raymond Ier. C'est la folie, sur le bord de la route et dans les transistors. Il a attaqué Raymond, il a attaqué. Il monte en souplesse, il monte à donf, la casquette légèrement penchée, visière relevée, dans un mélange incroyable d'explosivité et de pépéritude. Il emporte au sommet et, dans la nuit, Saint-Lary est secoué par des explosions, des attentats. La police enquête. Interrogé sur ces explosions, Poulidor répond : le seul explosif ici, c'est moi.
Tour de France 2021. RTL chez vous.
Bonne route, la course toutes les demi-heures avec Christian Olivier, Morad Jabari et Nicolas Georgerot sur la moto pilotée par Jérôme Cavert. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL en ce 14 juillet, jour idéal pour retrouver sa bicyclette.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette.
RTL Midi.
La météo, si vous avez l'impression qu'il fait frais, ce n'est pas qu'une impression. Peggy Broche, nous sommes entre 3 et 6 degrés en dessous des normales.
17 à Besançon, en effet Christelle, ça reste frais. 19 à Lyon et Lille, 22 à Caen, à Paris, à Montélimar, 23 à Bordeaux, 24 à Nantes et 27 quand même à Perpignan. Alors il y a 6 départements du nord-est qui sont en vigilance orange pluie inondation et 3 pour crue. Soyez extrêmement prudents, les pluies sont très fortes entre la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Et le temps reste maussade entre le Nord-Pas-de-Calais, la Bourgogne et le nord des Alpes. Sur une grande partie du pays, c'est plutôt maussade avec beaucoup de nuages, quelques petites éclaircies, quelques averses également entre la Haute-Normandie et le sud-ouest. Et pour plus d'éclaircies, eh bien c'est dans l'ouest, entre la Bretagne, la Basse-Normandie et le littoral aquitain, et du beau soleil toujours près de la Méditerranée.
Et demain, Peggy, encore des trombes d'eau dans l'est ?
Oui Christelle, entre le Grand Est et la Franche-Comté, les pluies seront encore très soutenues toute la journée, donc vraiment prudence. Entre le sud-ouest et la région Rhône-Alpes, un ciel souvent gris avec quelques gouttes, un peu plus lumineux sur le nord-ouest et très beau pas de la Méditerranée. Puis dans l'après-midi, les éclaircies reviendront par l'ouest, elles seront plus larges entre la Bretagne et la façade atlantique et toujours gris et pluvieux à l'est, sauf près de la Méditerranée. Pour les températures, elles resteront fraîches, mais on pourrait espérer gagner 1 ou 2 degrés par endroit.
Merci Peggy. Il est 13h sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On va dialoguer. Vous pouvez nous appeler et certains l'ont déjà fait au 3210. C'est le cas de Pierre. Bonjour Pierre, vous avez envie de nous parler du pass sanitaire pour les ados?
Oui, bonjour Christelle.
Bonjour.
Eh bien écoutez, je pense que le fait d'avoir repoussé au 30 est une bonne décision pleine de pragmatisme.
Oui, parce que vous étiez un petit peu inquiet. On va y revenir dans une minute avec vous Pierre, merci. Le rappel des titres, tolérance donc sur le pass sanitaire pour les adolescents. Les 12-17 ans seront exemptés jusqu'au 30 août pour ne pas gâcher les vacances en famille. Dans les trains, tolérance aussi sur le week-end du 1er août. À l'inverse, le projet de loi qui sera présenté lundi en Conseil des ministres prévoit des amendes de 45 000 euros pour les lieux publics qui ne respecteront pas les contrôles sanitaires. Et l'isolement obligatoire des personnes testées positives. C'est toujours la ruée sur les vaccins. Plus de 2 millions de rendez-vous ont été pris depuis l'allocution d'Emmanuel Macron. Le président a assisté au dernier défilé du 14 juillet de son quinquennat. Ce matin, un défilé entre tradition et modernité avec une surprise musicale à la fin, Brice du Génie.
Oui, c'est vrai qu'en ce qui concerne la musique, les militaires nous ont plutôt habitués à ça. Mais dans ce tableau final consacré à la jeunesse engagée, finit la rigueur du défilé, changement de ton. Sur cette musique, les lycéens de lycées militaires, les jeunes pompiers civils, d'autres du service civique, du service national universel, se sont mis à danser, se déhancher en frappant dans leurs mains sur la place de la Concorde. Dans les tribunes, les uniformes un peu plus rigides esquissent quelques timides mouvements, pas toujours en rythme d'ailleurs.
Et c'était donc la chanson de Salif Keita, certains l'auront reconnue, Madame. La vente de véhicules thermiques neufs sera interdite en 2035. C'est l'une des mesures choc présentées aujourd'hui par la Commission européenne dans le cadre de son plan climat. Même les véhicules hybrides ne devraient pas être autorisés. Or, l'électrique ne représente que 7% du marché en ce moment. Le pape François a quitté l'hôpital où il était en convalescence ce matin. Il avait été opéré du côlon le 4 juillet dernier. Le souverain pontife a 84 ans. On repart sur la 17e étape du Tour de France. La plus difficile hein, dans les Pyrénées. Nicolas Georgerot, j'imagine qu'on n'est pas encore dans le dur.
Non, pas encore. 32 kilomètres parcourus sur les routes vallonnées de Haute-Garonne. On traverse les champs de blé, les champs de tournesol, mais avec par moments quelques gouttes de pluie. 6 coureurs en tête. Il y a 4 Français, Pérez, Godon, Turgis et Chevalier. Ils sont accompagnés de l'Autrichien Pusselberger et du Néerlandais Van Poppel. Un autre Français, Julien Bernard, est intercalé à 1 minute et 10 secondes. Le peloton maillot jaune de Pogacar à plus de 4 minutes et c'est sans doute la bonne échappée du jour. Il y aura un sprint intermédiaire tout à l'heure avant les 3 ascensions. On le rappelle, les 3 ascensions majeures, Peyresourde, Valouron-Azette et Saint-Lary-Soulan, Col du Porté pour terminer.
À tout à l'heure, prochain point, 13h30.
Et les petites histoires olympiques. Jean-Michel Rascol sur RTL.
Et oui, vous le savez, chaque jour cet été dans RTL Midi, nous revenons sur un grand épisode de l'histoire olympique. Le chanteur Freddie Mercury fut l'une des voix de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Barcelone en 1992, même si le chanteur avait disparu quelques mois plus tôt. Il avait pour l'occasion composé un opéra olympique, Jean-Michel Rascol. Barcelone.
La première médaille d'or des Jeux de Barcelone aurait pu être décernée à titre posthume à Freddie Mercury. Dès l'attribution des Jeux en 1987, les organisateurs sollicitent le chanteur pour qu'il imagine le thème de la cérémonie d'ouverture. Freddie Mercury est flatté et il envisage de composer un air d'opéra qu'il interpréterait avec l'immense cantatrice originaire de Barcelone justement, Montserrat Caballé. L'opéra « Le fantasme caché » de Freddie Mercury, récit de Georges Lang, la voix pop-rock de RTL.
Cette chanson reflète l'amour de Mercury pour l'opéra avec ses notes aiguës et la voix de Montserrat Caballé qui est une cantatrice qu'on ne présente plus. C'est une star mondiale. Il a tellement envie de chanter de l'opéra. Il a toujours voulu chanter de l'opéra. D'ailleurs, rappelez-vous, à un moment donné, quand il était avec Queen, il a quand même enregistré un album qui s'appelle A Night at the Opera avec la fameuse chanson qui s'appelle Bohemian Rhapsody. Et dans cette chanson, on voit déjà les qualités de Mercury. On voit cette voix terrible, formidable, puissante, qui flirte vraiment avec l'art lyrique. Et elle lui a donné la possibilité de le faire. Elle l'a rassuré. Et c'est devenu un couple, on peut dire, fusionnel. Et c'est ça qui est magique, formidable. This dream was me and you.
I want all the world to see. Un clip sera tourné et présenté au roi d'Espagne 2 ans avant les Jeux. Et c'est cette vidéo qui sera projetée, fait unique dans l'histoire des cérémonies, le 25 juillet 1992, car le chanteur a disparu 8 mois auparavant. Pas de live face au monde, mais le mariage unique de 2 voix qui résonneront longtemps dans la nuit catalane.
J'avais les larmes aux yeux parce que c'était tellement émouvant de voir ce chanteur à la gestuelle d'un chanteur de rock, de pop, qui donnait la main à la grande cantatrice. Il avait une gestuelle, une posture de quelqu'un qui est fier sur scène, qui a la poitrine en avant, quoi, je veux dire. Et ça, ça a été quelque chose de fondamental dans sa façon de s'exprimer dans l'art lyrique, parce que il fallait pas qu'il soit quand même complexé, il ne fallait pas qu'il soit le moins bien que la grande cantatrice, il fallait qu'il soit son égal. Et d'ailleurs, elle est dithyrambique à son sujet. Elle dit « Mais Freddie avait des possibilités vocales que je ne soupçonnais pas au départ. Je pense qu'il aurait fait d'autres choses dans l'art lyrique s'il était encore en vie. »
Une histoire olympique signée Jean-Michel Rascol et Spencer Clairfort.